avec Benoît Marchal.
Bienvenue. Bienvenue pour le 48e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. L'édito, qui sera consacré au RAW pour la photographie quotidienne. Le segment principal, qui est une rencontre avec Gérald Geronimi, un photographe marseillais. Et enfin, le troisième segment, avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du site, www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner, et on supporte l'abonnement par email, par iTunes ou par RSS. C'est là que vous pourrez poster un commentaire, une réaction, commander vos cartes promo si vous voulez faire connaître Déclencheur autour de vous, et bien entendu retrouver tous les liens de l'épisode ainsi que des infos complémentaires. Avant d'entamer le premier segment, vous vous demandez peut-être pourquoi cet épisode est numéroté 48e alors que le précédent était le 19e. Eh bien, pour la deuxième année, Baptiste et moi avons décidé de simplifier la numérotation. Aujourd'hui, on pratique une double, voire une triple numérotation, les épisodes allant de 0 à 19, les mini de 1 à 18, ce qui fait qu'on passe du numéro 19 au M18, c'est compliqué. Alors on a décidé pour cette deuxième année de tout remettre à plat et de tout numéroter de façon séquentielle, qu'il s'agisse d'un épisode normal, d'un mini, d'un complément visuel ou autre. Et donc en additionnant les épisodes précédents, ceci est donc le 48e épisode. Premier segment, l'édito. Un édito qui m'a été inspiré par une rencontre avec un auditeur de la toute première heure, Katsura, que j'ai rencontré récemment lors des REWIX, les fameuses rencontres de l'Internet citoyen à Charleroi. Pendant le cocktail, Katsura m'a en effet fait remarquer que je prêche l'utilisation du RAW, mais que lui trouve en pratique qu'il n'a pas le temps de développer chaque photo en appliquant les techniques que j'avais présentées dans l'épisode 11 d'octobre 2006. Katsura a tout à fait raison, on ne peut évidemment pas prendre tout ce temps pour développer chaque image. Et moi, en pratique, je classe les photos en trois catégories. Il y a les ratés. D'abord, évidemment, les photos floues, les photos mal exposées, les photos inintéressantes, bref, celles avec lesquelles je ne vais rien faire. Ensuite, les snapshots. Oui, j'utilise un vocabulaire anglais, mais c'est mon habitude. Ce sont toutes ces photos que je vais développer, mais qui ne méritent pas un traitement très sophistiqué. Ce sont des photos de famille, des petits reportages sur l'un ou l'autre événement local dont je souhaite garder des traces, des photos d'essais techniques, des photos prises pour le travail, bref, des photos que je vais développer pour mettre sur un site, pour imprimer, mais auxquelles je ne vais pas consacrer le temps d'un tirage très très sophistiqué. Et enfin, la troisième catégorie, c'est le que j'appelle les winners, toujours en anglais. Ce sont les bonnes photos. C'est celles que je vais développer soigneusement, en appliquant toutes les techniques que j'avais décrites dans l'épisode en octobre 2006. Le gros des photos, évidemment, sont les snapshots, dans un rapport de plus de 1 pour 10. Et donc, il est clair que pour toutes ces photos, je ne prends pas le temps de les peaufiner. Je vais travailler en série, je vais donc régler pour la première ou la deuxième photo de la série, et je vais recopier ce réglage à l'ensemble de la série. Tous les logiciels de traitement RAW dignes de ce nom sont capables de copier-coller des réglages, voire de faire des traitements en série. Même les paramètres que j'applique à ces photos sont plus limités. Généralement, c'est la balance des blancs, une correction générale de l'exposition, et puis parfois un petit réglage spécifique pour l'accentuation. D'ailleurs, je ne tire même pas ces photos en 16 bits. Je les développe évidemment en 8 bits SRVB. Pourquoi ? Parce qu'elles ont comme destination d'aller auprès d'un laboratoire photo, qui demande du 8 bits SRVB, ou elles ont comme destination le web, qui là aussi demande du 8 bits SRVB. Donc là, l'idée pour tous ces snapshots, c'est vraiment de les traiter très vite. Le week-end dernier, le week-end Pascal, était un exemple typique. J'ai fait beaucoup de photos de chasse aux œufs, j'en tirais quelques-unes pour la famille. Pour ces photos-là, évidemment, je travaille en série, parce qu'une chasse aux œufs, ça va très vite. Donc l'éclairage n'a pas le temps de changer d'une photo à l'autre, ou en tout cas pas de façon significative. La balance des blancs va rester la bonne. Donc je prends le réglage une fois et je le recopie pour l'ensemble de la série. Et en même pas 10 minutes, j'ai développé une vingtaine de photos. Et puis Pâques, c'est une tradition ici, je prends une photo de ma fille dans mon petit grenier studio. De cette séance, je tire une ou deux photos qu'elles je développe vraiment en petits oignons. Et là, effectivement, je vais faire l'ensemble des réglages, voire même plus de l'accentuation locale, des corrections de ce type, pour vraiment avoir un portrait qui me satisfait à 100%. Et là, Katsura m'a répondu, mais ces photos que tu tires en série, qu'est-ce que tu gagnes par rapport au JPEG ? C'est vrai, c'est quasiment comme du JPEG, sauf que le réglage, on le fait à tête reposée, devant l'ordinateur. On peut quand même essayer 2-3 réglages, en 10 minutes, on a quand même le temps d'en essayer quelques-uns, et donc de trouver un réglage pour la série qui soit vraiment bon. Ça veut dire que, notamment pour la balance des blancs, si je suis dans une situation où la balance des blancs est un petit peu difficile, eh bien je peux quand même prendre le temps de trouver le réglage le plus approprié. Bien sûr, je pourrais aussi faire ces corrections avec un JPEG. Mais le problème d'un JPEG, c'est que quand on fait des corrections un peu marquées, eh bien ça se voit. Et donc, si on a des corrections un peu marquées à faire, souvent, on ne sait plus les faire en série. Il faut vraiment passer image par image, et en final, je perds plus de temps. Deuxième élément, dans une série, je ne sais pas a priori quels sont les winners. Donc, je ne sais pas a priori quelle photo devrait être prise en JPEG, et je trouve que c'est plus simple d'utiliser le même réglage pour toutes les images, plutôt que d'avoir à se poser la question photo par photo. Ça fait perdre du temps sur le terrain, et tout ce qui fait perdre du temps, ça fait rater des photos. Deuxième segment, une rencontre avec un passionné de photographie. Je suis avec Gérald Geronimi. Bonjour Gérald.
Bonjour Benoît.
On va parler de différents sujets photo là aujourd'hui. D'abord, toi tu es photographe à Marseille, c'est ça ?
Tout à fait. Donc je vis de ma passion à Marseille. Moi je suis un photographe qui aime bien, on va dire, tous les domaines de la photo, donc je ne suis pas spécialisé dans un milieu particulier de la photo, je fais vraiment beaucoup de choses, donc ça va du reportage, ça va du mariage, ça passe par la photo de mode, la photo de sport, je suis vraiment très polyvalent à ce niveau-là.
Donc tu as des clients privés mariage, tu as des clients institutionnels ou événementiels,
voilà,
sur le sport. Ah oui, effectivement, donc c'est assez varié là.
Voilà.
Tu disais à l'instant, je vis de ma passion. Et c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu au téléphone avant, il y a une vraie passion pour la photo de ta part. Donc quel est ton parcours ? Tu es tombé dans le bain chimique quand tu étais petit ou...
Non, parce que je crois que je suis le seul photographe de ma famille. Mais en fait, ça a commencé quand j'étais adolescent. Je regardais beaucoup la télévision et je me rendais compte que dans tout ce que je voyais à la télévision, tous les grands événements sportifs et les festivals de cinéma, enfin, etc., un des points communs, c'était le photographe. Et je me suis dit, ça doit être vraiment un métier fabuleux parce que ça doit permettre de toucher plein de choses, de rencontrer plein de gens et de vivre des moments intensément. Donc pour la petite anecdote, je suis allé voir la conseillère d'orientation, donc je lui ai dit que je voulais devenir photographe et celle-ci m'a répondu que l'avenir c'était sérieux et que la photographie c'était pas un métier. Donc je me suis dit déjà à 15-16 ans, bon courage pour devenir photographe professionnel.
Un bon départ, bien encourageant.
Voilà, donc ensuite, finalement, j'ai fait un BEP audiovisuel, pas photo. Et donc, pendant mes études, j'ai eu l'opportunité, la chance de faire mes stages chez les marins-pompiers de Marseille au service photo. Une fois mon stage fini, je me suis dit, il faut que j'arrête l'école et que j'aille faire mon service militaire chez eux. J'ai commencé vraiment la photographie dans ce corps d'armée et c'est assez extraordinaire. C'est un milieu où tout le monde est assez solidaire, où, enfin, c'est une grande famille hein, les marins-pompiers à Marseille, et puis d'autant plus à Marseille c'est une institution. Donc ça m'a permis de m'ouvrir plein de portes, de découvrir plein de monde et de commencer à faire des photos un peu partout. Enfin beaucoup de reportages mais aussi savoir faire poser quelqu'un, etc. Voilà, j'ai tout appris sur le tas. Ouais.
J'allais dire, ouais. On photographie quoi justement quand on est photographe des marins-pompiers ?
Ben on fait...
À part des allumettes.
Bon, au niveau reportage, c'est vrai que c'est passionnant, en même temps c'est difficile parce qu'on photographie des accidents, on photographie des feux de forêt, on photographie beaucoup de choses un peu tristes. Mais à côté de ça, on fait aussi beaucoup de cérémonies officielles, beaucoup de portraits, on rencontre des personnalités. C'est vrai que c'est quand même un métier qui permet justement de vivre et de se rendre compte des choses à travers tout un tas de personnages et d'événements. Ensuite, donc, je voulais continuer dans la photographie. Je ne voulais pas rester chez les marins-pompiers et faire le pompier. Et là, j'ai déposé une candidature pour être bénévole pour la Coupe du Monde de football en 1998, comme responsable photographe sur le site de Marseille. Donc j'ai été pris et j'ai découvert le milieu de la presse et le milieu des photographes de presse professionnels, notamment des photographes sportifs. J'ai vu arriver les photographes du monde entier en salle de presse. Alors ça allait du Mexicain avec son chapeau mexicain sur la tête, du Marocain qui faisait sa prière derrière les cages en attendant le match. C'était aussi une très très bonne expérience, d'autant plus que c'était en 98 et on commençait à voir arriver les premiers, peut-être pas appareils photo numériques, quoique, mais les premiers ordinateurs avec des photos qu'on devait scanner, etc. Donc c'était aussi intéressant à ce niveau-là. De là, j'ai commencé à essayer de vivre de la photographie. Donc c'est vrai qu'au départ, c'est pas évident. Donc j'ai commencé à essayer de faire des photos à droite et à gauche dans les magazines enfin, plus ou moins gratuits de la région. Et à côté de ça, j'ai décroché des CDD, des CDI, beaucoup dans la photographie d'immobilier. Donc je faisais beaucoup de visites virtuelles d'immobilier. Jusqu'en 2003, j'ai décidé de me mettre à mon compte et d'attaquer une nouvelle aventure photographique.
Les visites virtuelles d'un immeuble, c'est pas glamour ça comme photo.
C'était glamour dans le sens où c'était une boîte qui s'occupait uniquement de maisons de luxe. Je faisais de Monaco à Cannes, à Saint-Tropez, c'est vrai que c'était quand même sympa quoi.
Alors cette conseillère d'orientation, elle avait pas tout à fait raison.
J'aimerais bien la revoir aujourd'hui pour lui montrer que quand on croit à quelque chose et qu'on se donne à fond pour y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Moi, c'est aussi un petit peu le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour être photographe, il n'y a pas d'âge pour vivre de la photo. C'est fait aussi d'opportunités, de rencontres. Il faut y croire tout simplement.
Et alors, quand on regarde ton site, et on mettra le lien évidemment sur le site de Déclencheur, donc les auditeurs pourront aller regarder directement, tu y présentes ton portfolio. Mm-hmm. C'est beaucoup, soit de portraits effectivement mode, soit de portraits événementiels, soit...
Ben c'est vrai que j'aime bien les gens, j'aime bien rencontrer des tas de personnes de milieux différents. Bon, peut-être que ça vient aussi de mon expérience chez les marins-pompiers. En fait, je m'en étais pas rendu compte, c'est peut-être toi qui m'as un peu ouvert les yeux là-dessus, mais c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de portraits sur mon site, donc il va falloir peut-être que...
Non, t'as pas l'air d'être un photographe de paysage, quoi, c'est ça que ça veut dire.
Non, j'ai besoin que ça bouge. Je suis pas trop nature morte, paysage, c'est pas trop mon truc, en fait, non. Je me sens bien dans le feu de l'action, en fait. Hein. Même au niveau des portraits, je suis pas trop pour faire poser la personne trop longtemps, ou on va dire que c'est du portrait de reportage un petit peu, en fait. Moi, j'aime bien cette expression de portrait de reportage.
Alors, on va y arriver justement à la démarche. Prenons peut-être la photo de mariage, qui est peut-être une des photos les plus stressantes, difficiles, je trouve. Enfin, moi, je refuse de faire ce genre de truc. Et puis, très posé, très répétitif. Comment est-ce que tu l'abordes ?
Moi, je l'aborde, en fait, j'allais dire très facilement, quoi. Il faut déjà essayer de bien sympathiser avec les mariés. C'est vachement important. Après, il faut être sûr de ses réglages, il faut être sûr de sa technique. Moi, j'insiste pour aller faire un repérage avec les mariés avant. Mais je crois qu'en fait, j'ai pas le temps de me stresser sur une photo de mariage. Et ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'assurer, j'allais dire, le minimum. Assurer le minimum, c'est faire les photos qu'on fait plus ou moins sur chaque mariage et que tout le monde va demander. Et une fois que j'ai assuré le minimum, je me permets d'être un petit peu plus créatif dans mes images. C'est-à-dire que je me permets de faire des choses que, ben, si je les rate, c'est pas grave.
Très concrètement sur le terrain, comment est-ce que tu interagis avec le sujet ?
Moi, très concrètement, je suis assez discret en fait toute la journée. Je pars du principe que les mariés, c'est pas des mannequins professionnels, ils ont pas l'habitude de se faire photographier. Donc en fait, je leur demande très très peu de choses. Je vais pas les brusquer. Bon, il y a pas que les mariés aussi, il faut penser aussi aux parents, aux grands-parents, à toutes les personnes qui font le mariage. Je vais essayer de capter des moments qui me paraissent intéressants ou émouvants sur un mariage. Ça va pas être la grosse photo posée, asseyez-vous sur un banc, mettez le bras comme ça, la main comme ça, le truc comme ça. Non, ça va être asseyez-vous sur ce banc avec votre nouvel époux et puis vous discutez, vous parlez de la journée, de ce qui s'est passé, de la mairie, d'église. Et puis moi, je suis là, je suis à côté, je rôde un petit peu et je vole des moments comme ça en fait. Et souvent, ça donne des résultats assez sympas.
Alors, en parcourant ton site, là, on saute du mariage à la photo de mode. Même démarche différente ?
Un petit peu la même démarche, dans le sens où c'est encore peut-être plus facile pour moi parce que le mannequin professionnel a l'habitude forcément d'être photographié. Une fois que j'ai bien cerné surtout la demande du client, je laisse quand même pas mal de liberté au mannequin.
Mmh. Et pour cerner la demande du client, tu fais quoi ?
Oui, il faut essayer de s'imprégner un petit peu de la marque, de ce qu'ils veulent faire ressortir à travers les images. Et après, c'est à moi à amener aussi ma technique en fonction de ce qu'ils demandent. Et je dirais qu'il y a un gros travail peut-être en amont. Un travail un peu qui se fait dans la tête aussi. Pas forcément un travail qu'on écrit sur un bout de papier parce que c'est pas trop mon style. Et je réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup à la séance de prise de vue du lendemain. Et en général, quand j'arrive le matin sur place, je sais ce que je veux faire. Et après, je fais confiance aussi au modèle dans les poses, dans ce qu'il va me donner en fait. J'accorde beaucoup d'importance à la parole et à la détente dans le sens où j'aime beaucoup parler avec les gens avant de faire des photos. Je vais pas arriver comme ça, dire bonjour, faire la photo et m'en aller. Au contraire, je passe souvent un quart d'heure, 20 minutes, même plus à parler avec la personne ou les personnes que je vais photographier.
Et alors en termes de matériel, tu emmènes quoi pour ce genre de choses ?
J'ai deux boîtiers, j'ai un 20D et un 10D qui me suffisent amplement. Le 10D c'est un peu un boîtier de secours, sinon j'ai donc deux flashs, un 580 et un 550 en Canon. J'ai un 70-200-28, un 17-40 F4, voilà.
C'est tout ?
Ouais. J'ai un petit réflecteur que j'utilise de temps en temps. Puis après, ça impressionne aussi les personnes, quoi. Quand on a beaucoup, beaucoup de matériel. J'ai pas beaucoup travaillé en studio, en fait. J'en ai pas fait beaucoup. Donc, j'essaie de faire au plus simple possible.
C'est pas le matériel qui fait la photo.
Non, c'est pas le matériel. C'est drôle. Quand on me demande des conseils sur l'achat d'un appareil photo, qu'on me dit, est-ce que je peux acheter celui-là? Est-ce que tu crois qu'il fait des belles photos? Alors, je leur explique qu'on sait pas forcément l'appareil qui fait tout.
Il y en a des mauvais, mais des bons, il y en a pas.
Voilà.
Alors on continue sur ton portfolio là, parce que le modèle avec lequel tu interagis, puis on saute sur les Energy Music Awards avec cette extraordinaire photo de Robbie Williams que tu as en ouverture de ton site, les photos d'événements sportifs avec Schumacher, etc. Ces gens-là, tu peux pas interagir de la même façon avec eux ou...
Si, on peut interagir avec eux, mais tout en restant en distance, en fait. Des fois, il n'y a pas besoin de parler hein, pour essayer d'accrocher le regard. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très bavard, je suis plutôt réservé, en fait. La photographie me permet justement d'aller vers les gens. Il faut, je crois, toujours pareil, essayer de saisir le moment qui va arriver et l'anticiper. Donc c'est le cas pour la photo peut-être de Robbie Williams. C'est vrai que dans ce genre de reportage, ben, on est 150-200 photographes et il faut essayer d'être différent. Il faut essayer d'avoir peut-être une approche différente, d'avoir un cadrage différent. Donc là, il s'est trouvé qu'il est arrivé plus ou moins devant moi. Il s'est présenté comme ça. Il a levé les yeux vers moi. Et puis voilà, ça a duré quoi, une seconde, deux secondes. La photo a été faite. Mais c'est même très difficile à expliquer, quoi. C'était d'être là au bon moment et au bon endroit, d'être prêt, d'avoir l'appareil bien réglé. Et je crois qu'un bon photographe, il faut qu'il ait de la chance. Hein. Il faut qu'il ait de la chance, mais il faut qu'il aille la chercher.
Tu n'as pas arrêté de répéter depuis que tu as le micro en main. L'appareil bien réglé, l'appareil bien réglé. Donc ça a l'air d'être important. Raconte-nous
un petit
peu.
Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Légèrement, légèrement. Raconte-nous un petit peu, ça veut dire quoi l'appareil bien réglé?
L'appareil bien réglé, c'est beaucoup de choses en fait. L'appareil bien réglé, ça veut dire déjà ne pas se tromper dans le choix de l'optique. Bon, c'est tout bête à dire, mais c'est quand même important. Des fois, il m'est arrivé de me retrouver avec mon 17-40 de montée alors que j'aurais eu besoin du 70-200. Ensuite, au niveau des bases de la photo, quoi, hein, c'est-à-dire essayer de regarder un petit peu par rapport à la lumière ce qu'on va pouvoir faire. Donc moi, je commence par régler la sensibilité du capteur. Donc je vois en fonction, je me mets 100, 200, 400, 800. J'aime bien travailler à 800. Je trouve que c'est assez formidable en numérique de pouvoir travailler à 800. Surtout qu'on a des résultats vraiment sympas. Ensuite, moi, automatiquement, je me mets en mode manuel à 65-6. Je commence comme ça, je vois ce que ça donne. Et ensuite, je compense en fonction de ce que j'ai à faire, du sujet, de la lumière, du résultat. C'est-à-dire que je règle soit la vitesse, soit le diaph, soit les deux en fonction du résultat et en fonction de l'effet que je recherche. Voilà, si c'est pour, par exemple, faire la photo d'un personnage, si c'est pour l'isoler, avoir une profondeur de champ assez limitée, je vais plutôt jouer sur l'ouverture, tout en faisant attention aussi à la vitesse, de pas trop descendre. Chaque sujet est complètement différent, en fait. C'est très difficile. Il faudrait vraiment prendre une photo en exemple pour expliquer les réglages, mais c'est beaucoup en fonction du résultat final. Je crois que c'est aussi la question à se poser. C'est qu'est-ce que j'ai envie de photographier, qu'est-ce que j'ai envie de montrer. C'est une question qu'il faut se poser très vite. Et après, en fonction, une fois que j'ai eu le déclic, hop, je change ma vitesse, je change mon ouverture, je baisse au niveau de mes ISO, j'augmente, etc.
Alors c'est intéressant, tu dis je choisis ce que je veux photographier et c'est quelque chose qui m'a moi frappé dans toujours le portfolio sur le site. Tu isoles systématiquement, avec des procédés assez variés d'ailleurs, mais tu isoles systématiquement un sujet tout en l'intégrant dans son environnement. On voit tout de suite que c'est, si lui le sujet, on voit tout de suite qu'il est dans l'environnement. Quelle est la démarche derrière ?
Ben, je commence à me demander quel est mon sujet. C'est tout bête, mais il faut se demander qu'est-ce que je vais photographier, qu'est-ce que j'ai envie de montrer. On peut pas tout mettre dans une photo. On a beau avoir un fichier, et à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut toujours essayer de choisir un sujet principal et de le mettre en valeur. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Peut-être la plus connue, c'est peut-être la profondeur de champ, essayer de jouer dessus pour avoir un fond un petit peu flouté. Donc là-dessus, en numérique, c'est un petit peu plus difficile d'avoir de la profondeur de champ avec les petits capteurs qu'on nous propose. Ensuite, il y a aussi, j'allais dire, la taille du sujet dans l'image. C'est sûr que si on se retrouve avec un petit sujet qui prend 10% de l'image, ça sera complètement différent que si l'on se retrouve avec un sujet qui prend 80% de l'image. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut se dire, est-ce que j'ai besoin de montrer, on va dire, le personnage dans son intégralité ou est-ce que j'ai besoin de le montrer dans son environnement ? Il y a aussi ça à se poser comme question. Je prends l'exemple du personnage parce que c'est peut-être le plus simple. Ensuite, il y a aussi l'environnement autour. J'essaye de pas trop surcharger l'environnement si j'ai le choix, de prendre des fonds qui sont assez neutres ou des fonds qui sont pas trop surchargés de tableaux ou de plantes ou de etc. Et j'essaie de placer mon sujet en fonction de ça. Et puis aussi, en fonction de la lumière, c'est très important. Par exemple, un sujet en contre-jour, c'est vachement intéressant. Ça permet un petit peu de le détourer, de le mettre en valeur. Avec un petit coup de flash devant, c'est assez sympa. Donc ça, c'est vraiment plusieurs méthodes pour isoler le sujet de la photo, mais vraiment la première chose à demander déjà, si on fait la démarche de se dire qu'est-ce que je vais photographier, quel est mon sujet principal, c'est déjà, je crois, une bonne technique.
Le reste vient
un petit peu automatiquement, tout en découle en fait, tout à fait.
Et alors comment est-ce que tu fais quand tu es avec les mariés par exemple, parce que là tu as deux sujets a priori.
Ben, Non, j'ai pas de sujet. Le sujet, c'est les mariés. C'est pas le marié et la mariée. J'ai un sujet qui s'appelle les mariés.
D'accord. Donc, quand tu dis un sujet, choisir un sujet, ça veut pas nécessairement dire un objet ou une personne.
Non.
Ça veut dire quoi alors ?
Un sujet, c'est ce que j'ai envie de photographier. C'est le thème principal de ma photo. La mariée, ça peut être un sujet. La robe de la mariée, ça peut être un sujet à photographier. L'alliance, c'est un sujet à photographier.
Et donc ça veut dire que quand tu photographies l'alliance par rapport à la mariée, ça change quoi ?
Déjà, je vais essayer d'isoler l'alliance dans mon image. Donc, je vais dire à la mariée, bon, là, on va faire un gros plan de l'alliance. Donc, vous allez, admettons, la poser sur le bouquet ou la poser sur le sable ou la poser sur le costume de votre mari. Et là, j'isole l'alliance de la mariée. Et en général, pour l'isoler, je travaille beaucoup au télé. C'est vrai que c'est assez sympa. Je me mets sur des réglages un petit peu, j'allais dire extrêmes, voire bloqués, des fois souvent à 2,8. Donc là, il faut faire très attention à la profondeur de champ, à la netteté. En général, je me règle le plus souvent sur le collimateur central et puis je décentre au niveau de mon cadrage. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas d'éléments perturbateurs autour de ma photo. Essayer d'avoir pas trop de couleurs, pas trop de toujours pareil, de fond chargé. Et quand je vois que c'est bon, tout simplement, je déclenche. Il ne faut pas faire qu'une photo, il faut en faire plusieurs. Tout dépend, on peut faire une photo d'ensemble en essayant de s'appliquer sur son cadrage, sur ses réglages, sur la règle des tiers, etc. Et une fois qu'on a fait sa vue d'ensemble, on peut ensuite aussi isoler une partie de ce qu'on a vu, du décor, et le mettre en valeur. Parce que quand on regarde comme ça un décor, on se dit que c'est vrai que là, c'est joli, cette lampe, elle est sympa, cette plante, elle est sympa. Donc, est-ce que j'ai envie de montrer que la lampe, que la lampe derrière la plante ? Voilà, c'est toujours... La photographie, c'est beaucoup question de choix et de compromis. Donc, à un moment donné, il faut, faut se dire qu'on ne peut pas tout photographier, tout mettre dans une photo, ça serait même dommage.
On peut tout photographier, mais pas dans une seule photo.
Voilà, exactement. Tout à fait, c'est bien dit.
En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as répété plusieurs fois que tu avais la chance de vivre de ta passion. C'est à la limite pas un métier en fait pour toi.
Non, je me suis toujours dit que le jour où ça deviendrait un métier, je ferais autre chose. Donc c'est vrai que c'est vraiment une passion et j'ai la chance, ou je me suis donné la chance d'en vivre aujourd'hui. On va dire que quelque part j'envie un petit peu les amateurs d'avoir cette liberté de pouvoir avoir le temps de faire un petit peu ce qu'ils ont envie de faire en photographie. C'est-à-dire que moi j'ai toujours l'exigence du client derrière qu'il faut gérer. Donc de temps en temps c'est vrai que ça freine un petit peu, même si bon de temps en temps aussi il y a des clients qui nous laissent carte blanche. Enfin, c'est un besoin aussi. Moi, je dis toujours, photographe professionnel, si on me demande de faire un reportage de photos entièrement flou, il faut savoir le faire. C'est bête à dire, mais c'est aussi ça. C'est se plier un petit peu aux exigences du client. Il y a des amateurs qui font des photos vraiment extraordinaires et je suis vraiment des fois scotché par des images que je vois. Et amateur, pour moi, c'est pas quelque chose de...
C'est
pas un gros mot, voilà, exactement, tout à fait. Donc, j'encourage les amateurs à continuer dans leur démarche. Et moi, j'ai besoin de temps en temps de faire des photos pour moi... de mettre tout en œuvre un peu comme si c'était une commande, mais de les faire pour moi sans qu'il y ait une question d'argent ou de budget ou de client. Et c'est vrai que le résultat, souvent, je me fais des fois même plus plaisir. J'ai besoin de me faire plaisir quand je fais des images. Si je me fais pas plaisir, je fais pas de belles images, c'est certain. C'est vrai que le fait d'être un petit peu polyvalent dans la photographie me permet de ne pas m'enfermer dans une spécialité, de garder un œil un petit peu neuf, un œil un petit peu pétillant sur tout ce que je suis amené à photographier. Moi, je suis sur un petit nuage tous les jours. Le matin, quand je me lève, et des fois, j'ai le choix de pas me lever. C'est un peu la magie de la photo. Je me dis, c'est super, aujourd'hui, j'ai des photos à faire et je vais rencontrer des gens que je connais pas. Je vais essayer un nouveau réglage, machin, etc. Je voulais faire partager ça avec... les auditeurs de Déclencheur, et puis je suis aussi à leur disposition si ils ont besoin de conseils un petit peu plus précis sur les thèmes qu'on vient d'aborder, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un email. Je me ferai une joie d'y répondre et de les aider dans leur démarche de photographe.
On a bien compris qu'il y avait cette passion, et tu disais, si on a la passion, on peut avancer, on peut réussir.
Bien sûr.
Et justement, si on est passionné, qu'on a envie de pouvoir effectivement photographier l'Energy Music Awards, la Formule 1, etc., c'est quand même pas des endroits où on te laisse rentrer avec ton appareil facilement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour convaincre et pour qu'on t'ouvre les portes qui te permettent de faire ces photos-là ?
C'est ce que je disais un petit peu au début. C'est une question aussi, je crois, de personnalité, de comportement. Mon site internet est ouvert depuis peut-être un an, enfin un peu plus d'un an. De 2003 à 2005, j'ai travaillé sans montrer aucune image. C'est-à-dire que j'ai réussi à trouver des clients, on m'a fait confiance. Et le plus souvent, je ne montrais pas mes photos. je donnais mes références, j'expliquais ce que je faisais, etc. Et ça sent, en fait. Je crois que les gens le sentent. Quand on est sérieux en tant que professionnel, il n'y a pas que faire des photos. Il y a aussi être sérieux, être disponible, être exigeant, rendre les photos dans les temps, etc. Il y a aussi ça d'important, en fait. Souvent, l'amateur se dit, j'y arriverai jamais parce que je ne fais pas des belles photos. Non, c'est pas vrai. C'est pas faire que des belles photos, le métier de photographe. C'est aussi savoir être à l'écoute, c'est aussi savoir être disponible, c'est réagir très très vite, parce que maintenant avec le numérique, on vous appelle le lundi après-midi pour faire le reportage le mardi matin et pour rendre les photos le mardi après-midi, donc il faut être très très réactif. Si on est le plus grand photographe du monde mais qu'on n'arrive pas à réagir aussi vite, c'est pas la peine. Donc il y a aussi ce côté-là qui est important. Ensuite, il faut se lancer. L'appareil photo autour du cou permet aussi d'ouvrir beaucoup de portes, en fait. On se dit, tiens, il est photographe. Il faut pas dire, je suis photographe amateur ou je suis pas photographe ou je suis stagiaire. Il faut se dire, non, tout le monde est photographe. Tout le monde est photographe. Quand je reçois des stagiaires, je leur dis, à partir d'aujourd'hui, tu es plus stagiaire, tu es photographe et tu te présentes en tant que tel. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te faire confiance. Une fois, il m'est arrivé à la boulangerie d'aller acheter un peu de chocolat. En discutant comme ça, en échangeant deux, trois mots, la personne a su que j'étais photographe. Je dis, je suis photographe, machin, j'ai ma fille qui se marie. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est aussi des rencontres qui, à la base, ne devait pas amener à faire un reportage de mariage. Donc. Mais c'est une démarche qui est peut-être aussi un petit peu longue. Moi, comme je disais, j'ai toujours été plus ou moins dans la photo, mais j'en vis peut-être depuis 2003-2004 en 100%. Donc c'est quelque chose d'assez long. Après, bon, forcément, on a tous un parcours différent. Il y a des personnes qui auront peut-être la chance d'aller beaucoup plus vite, qui auront peut-être la chance de trouver des contrats de salariés dans des boîtes comme photographe, même si c'est très difficile. Mais il ne faut pas se figer que sur l'image, c'est ce que j'ai envie de dire. Il faut aussi se figer sur une personnalité. Henri Cartier-Bresson a dit la photographie, c'est mettre dans la même ligne de mire la tête, les yeux et le cœur. C'était pas pour rien. Donc il n'y a pas que les yeux qui comptent, il y a aussi la façon de faire et la façon d'être. Voilà, il faut laisser faire un petit peu les choses. Il faut essayer de prendre l'appareil photo, puis d'aller faire des photos. Et à un moment donné, vous allez faire des rencontres, les gens vont venir vers vous et cette personne va vous ouvrir d'autres portes, etc. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de photographes qui sont très très pointus dans leur milieu, qui aujourd'hui sont photographes, mais qui à la base n'étaient pas du tout photographes. Et moi, j'ai un copain qui est photographe de rallye, et à la base, il était passionné par le rallye automobile. Il s'est dit, moi, je suis pas pilote, j'ai envie de vivre dans le rallye automobile, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, ben lance-toi, essaie de faire de la photo, et puis tu verras bien. Et aujourd'hui, il en vit. Il est photographe de rallye professionnel, il fait que ça.
Deux petites questions plus techniques maintenant, pour repasser si tu as fait autre chose. RAW ou JPEG?
RAW depuis peu.
Et tu développes et tu dérotises et tu traites ça toi-même ou tu confies le développement à un labo?
Alors, donc, je fais tout moi-même. La question aussi à se poser, c'est est-ce que je vais avoir le temps de traiter le RAW ou est-ce que je vais pas avoir le temps? Si j'ai pas le temps, je travaille en JPEG, j'ai pas le choix. Si j'ai le temps, maintenant, c'est vrai que je me mets au RAW. Au niveau du rendu final, on a vraiment une belle petite différence de qualité.
Eh bien, écoute, c'est super sympa. Ouais. Gérald, merci.
Merci beaucoup.
D'avoir pris le temps de parler
merci
avec
beaucoup,
nous.
Merci beaucoup, Benoît. Et puis, bonne continuation. Vraiment, sincèrement, pour Déclencheur, c'est vraiment un outil fabuleux. Et je trouve que c'est bien de parler de la photo comme ça, avec des mots simples.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, vous pouvez visiter le site www.déclencheur.com. Les messages textes sont gratuits. Une boîte vocale est également à votre disposition. Commençons par une petite info pratique. Vous êtes nombreux à m'écrire depuis décembre en me demandant d'organiser une autre vente de Weibel. J'ai le plaisir de vous annoncer que ça y est, je vais réorganiser une deuxième vente de cibles neutres. Parce qu'en effet, après avoir eu l'occasion d'essayer le DigiGray, je me suis dit que ce serait dommage de se limiter au seul Weibel et je vous propose donc les deux cibles. Tous les renseignements pour ce faire sont sur le site. Le Weibel est à son prix habituel. Le DigiGray est une dizaine d'euros moins cher. À vous de choisir. Je rappelle que je ne recommande ces cibles que pour le travail en RAW. Pour éviter les problèmes de la dernière fois, j'ai commandé les articles et donc je les ai maintenant en stock, ce qui veut dire que vous serez livrés sur stock rapidement. À ce propos, commençons les commentaires avec le message de Franck Doyen qui confirme effectivement l'utilité d'une cible neutre dans son travail. Il avait participé à la commande du Weibel et il trouve ça très pratique. French Free Surfer réagissait à mon commentaire dans le dernier épisode où je disais qu'il y avait le but de viabiliser le podcast en me disant que la vente de matériel tel par exemple que les Weibel pourrait constituer une source de revenus pour Déclencheurs. Alors en pratique, les bénéfices ne sont pas très élevés, mais effectivement, comme la dernière fois, ils serviront à acheter du matériel de podcasting. Deux petites news pour se mettre en forme. Tout d'abord, AppleNews.fr. C'est le nouveau site de Christophe Schmitt. Et Christophe, on le connaît bien. C'est la personne qui est derrière Audiopod, et Audiopod, c'est le site de référence en français sur le podcasting. Et donc Christophe n'oublie évidemment pas le podcasting puisqu'il couvrira certainement l'iPod. Ensuite, une pétition en ligne circule actuellement pour amener Adobe à réviser les prix européens. Je sais que les prix européens ne peuvent pas être à parité avec les prix américains parce que l'Europe applique des taxes énormes, la TVA bien sûr, mais également les taxes sur les entreprises, la sécurité sociale, etc. Donc forcément, les prix européens sont plus élevés. Mais pour la Creative Suite 3, Adobe a pratiquement doublé les prix hors TVA entre l'Europe et les États-Unis. Et là, je crois, et je ne suis pas le seul à m'en indigner, que cette différence de prix, elle est vraiment exagérée. Si comme moi, vous estimez le différentiel de prix trop important, signez la pétition, ça ne coûte rien d'essayer. On continue avec plein de messages sympas pour l'anniversaire de Déclencheur et énormément de réactions, sans compter en plus un flot de courriels au numéro Poisson d'Avril. Donc des messages reçus de RSA Godzilla, Mousse Mousse, Stan, Cipher, LLR, Joseph, Nouchema, Cyril Marcouillou, Dominique Jacob, Maxime Grislin, Anjone, André, Ticalium, Peter, Gus, Dati, Xavi Book, Mister Vertigo, Mario Faubert et Keops. Merci à vous pour ces différents messages d'encouragement, ça me fait toujours très plaisir. Sur le numéro Poisson d'Avril, Léguique tient quand même à signaler qu'il apprécie le travail au fisheye. Les réactions à l'épisode sur Digicam, avec d'abord beaucoup de questions autour de la disponibilité de Digicam sur l'une ou l'autre plateforme. Alors je récapitule, aujourd'hui Digicam ne fonctionne pas sur Windows, c'est pas la peine d'essayer que ce soit XP, Vista ou une autre version, mais il fonctionne sur tous les Unix, et donc y compris macOS. Mais pour macOS, il faut le compiler soi-même et installer le serveur X à partir du disque d'installation de macOS 10, donc c'est quand même plutôt pour les geeks. Fabien nous signale dans les commentaires qu'une prochaine version de Digicam fonctionnera sous Windows et de façon native pour macOS 10, mais elle n'est pas encore disponible. Sur le cœur de la discussion maintenant, et en particulier la discussion sur les métadonnées, Mathéo demande s'il vaut mieux se concentrer sur les données IPTC et XMP, ou si on peut remplir les autres champs, comme les champs commentaires, titres, etc., qui accompagnent les photos. Alors là, Mathéo, je crois qu'il y a une petite incompréhension. IPTC ne se limite pas simplement aux tags. En fait, IPTC définit plus de 60 champs. Donc les champs, commentaires, titres, etc. font tous partie de la norme IPTC et il n'y a aucune raison de s'en priver. Pour aller un petit peu plus loin dans la question, je crois qu'il faut reprendre l'analogie de Jean que je trouvais très bonne de l'album photo numérique. Sur l'album papier, on ne se contente pas des images, on veut les images plus le commentaire, la date, la personne photographiée, le lieu où ça a été photographié. Eh bien, les données IPTC et le DNI XMP, ce n'est rien d'autre que ça. C'est la possibilité de conserver avec son image la description de la photo. Et là, peu importe le logiciel qu'on utilise, du moment qu'il est capable de mettre à jour ces données IPTC dans le fichier. Puisque s'il est capable de les mettre à jour dans le fichier, ça veut dire qu'un autre logiciel dans le futur pourra aller les relire. Si en plus il stocke une copie des métadonnées dans une base de données, ce que d'ailleurs Digicam fait pour des raisons de vitesse, Gilles l'avait expliqué, ce n'est pas gênant. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il va mettre à jour le fichier de l'image. Vincent M est un nouvel auditeur qui a laissé un très long message, très positif, rempli de suggestions pour Déclencheur. Je n'ai pas le temps de les traiter ici toutes une à une, mais il pose une question qu'on m'a posée quelques fois par email. Pourquoi est-ce que je fais une différence entre les chartes pour le JPEG et les chartes pour le RAW ? En gros, parce qu'en JPEG, il faut faire la mesure de la balance des blancs dans l'appareil photo, ce que j'appelle la mesure a priori. Si on doit corriger la balance des blancs d'un JPEG dans Photoshop, on risque d'avoir de grosses montées de bruit. C'est surtout vrai si la correction est importante, mais si la correction n'est pas importante, ça vaut sans doute pas la peine de s'embêter dans Photoshop. Or, pour faire cette mesure dans l'appareil, on a besoin d'une cible qui soit assez grande. Et là, ça dépend un petit peu de la marque. Nikon est beaucoup moins flexible que d'autres, par exemple. Transporter une grande cible rigide avec soi, c'est pas très pratique. Et donc là, je recommande plutôt de prendre une cible pliable, comme par exemple la cible de la Stolite. En RAW, par contre, on peut facilement utiliser une toute petite cible parce qu'on va aller piquer la valeur avec la pipette. Depuis 2-3 épisodes, on parle de trépied dans les commentaires et Pierre PGT, qui on s'en souvient écouter avant Déclencheur du Chine, nous confirme qu'effectivement en Chine, il a acheté un des trépieds de la marque Benro et il en est très très content. Marcol, dans les commentaires, nous raconte sa visite à l'exposition Tous Photographes que Daniel Girardin était venu nous présenter en février. Le dernier jeu de Nicolas, Déclenchez-moi, vous a clairement autant plu que le premier. Il a en particulier plu à LLR, Franck Doyen et Joao. À l'écoute du dernier épisode, Charles-Frédéric Bielen se demande si je ne cherche pas à mettre en place une formule payante pour Déclencheur. Il ajoute qu'il comprendrait la démarche, mais il se dit alors que par exemple lui n'aurait pas eu l'occasion de découvrir le podcast. Alors je clarifie tout de suite, aujourd'hui je n'ai pas l'intention de rendre le podcast payant. Globalement, je ne suis d'ailleurs même pas certain que ce serait une bonne idée. Par contre, il est vrai que j'envisage de rendre payant les compléments visuels vidéo, et uniquement les compléments visuels vidéo. Visiblement, vous avez apprécié le premier complément de janvier, mais on est maintenant en avril et j'ai toujours pas eu le temps d'en reproduire un nouveau. Il faut un temps fou pour les produire. J'ai des idées pour les rendre encore plus intéressants, mais qui demanderaient des moyens supplémentaires. Et donc, je me dis que vous demander une petite participation sur la production des vidéos mais pourrait permettre de développer davantage cet aspect-là. Aucune décision n'est arrêtée. Je répète que ça ne concerne pas le podcast, mais les compléments visuels. Donc, ça veut dire que vous aurez toujours toute l'information en audio au minimum. Mais c'est une piste que j'explore quand même assez sérieusement. Mais j'en profite, puisque Charles Frédéric a posé la question, pour vous demander votre avis. Vous, qu'en pensez-vous? Joseph réagit à ma petite note sur la réverb dans la prise de son, disponible que sur le site web, elle n'est pas en podcast, en pointant vers VoiceThread. VoiceThread, c'est une espèce de flicker avec du son dedans. La version actuelle, c'est une bêta, elle a un mois, est encore un petit peu pauvre, mais je trouve le concept très très intéressant. Vic a une question suite à l'interview d'Alain Bachelier qui était passé en février. Est-il permis de publier sur Internet des photos d'un spectacle et donc des photos des artistes si on n'a pas leur autorisation, étant bien entendu qu'on parle ici de spectacles pour lesquels il n'était pas interdit de photographier? Alors, stricto sensu, la réponse est non. Normalement, il faut toujours une autorisation. Et ce, d'autant plus que certains artistes ont pu vendre leurs droits à l'image. Plus pragmatiquement, je crois qu'il faut voir la nature du spectacle. La plupart des artistes amateurs seront plutôt fiers et heureux de se voir en photo. Et c'est à vous de prendre une décision par rapport à ça. Mickey réagit au mini sur le diaphragme qui était paru en décembre 2006. En gros, il a eu beaucoup de mal dans un mariage à trouver l'exposition qui lui évitait le flou de bouger tout en lui donnant la profondeur de champ nécessaire pour que les deux mariés soient nets. Il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet. Pour un traitement plus en profondeur, je vous renvoie à l'épisode d'août 2006, l'exposition créative. Mais en substance, je crois que Mickey a oublié le troisième paramètre de l'exposition, la sensibilité. Une église est souvent mal éclairée, et donc il faut souvent pousser la sensibilité, soit en numérique en poussant sur le capteur, soit en film en choisissant une pellicule plus sensible pour se donner plus de latitude et pouvoir à la fois avoir une bonne profondeur de champ et éviter le flou de bouger. Je signale qu'avec Gérald, on a enregistré un mini sur le mariage que j'espère pouvoir vous proposer très bientôt. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement est gratuit. Il signifie simplement que vous recevez tous les épisodes automatiquement. Et toutes les infos pour s'abonner sont sur le site. Le prochain grand épisode de Déclencheur sera consacré aux photos de spectacle et j'aurai le plaisir de retrouver Nicolas Esposito pour le traiter. À très bientôt.